France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de vous offrir une visite guidée dans un des plus passionnants lieux de la capitale, l'Opéra Garnier. C'est une proposition de Cultival.fr, qu'on reçoit très régulièrement, pour découvrir les coulisses, l'histoire de ce lieu inauguré le 5 janvier 1875, on en parlait tout à l'heure, dans le Grand Paris. Et bien sûr, pour en découvrir tous les aspects. Nous sommes avec aujourd'hui Ségolène de la Houppelière, guide au Palais Garnier, Benjamin Bétou, directeur adjoint de l'expérience spectateur et marketing de l'Opéra National de Paris, l'Opéra Garnier, pardon, et puis Thibaut Manchon, directeur de Cultival. Bonjour à tous.
Bonjour Laurent.
Avec vous trois, on devrait être complet au niveau des infos. On va tout savoir sur l'Opéra Garnier, même si à mon avis, il faut plusieurs heures d'émission pour en connaître tous les secrets, tous les aspects et l'histoire. Alors évidemment, pourquoi l'Opéra Garnier a-t-il été construit? Quelle est son histoire? Quels sont les lieux emblématiques que la visite propose? En quoi a-t-il innové dès son inauguration? On veut tout savoir. Je ne doute pas que la visite guidée proposée par Cultival vous en apprendra beaucoup plus. On va commencer par le début, la question qu'on peut tous se poser. Pourquoi décide-t-on un jour de créer à Paris ce monument dédié à l'art lyrique, à la danse? Et qui en est l'initiateur? Alors, on est à la fin du 19e siècle. Qui décide qu'à l'opéra, il faut un opéra supplémentaire à Paris? Parce qu'il y en avait déjà un, n'est-ce pas? Ségolène?
Oui, alors on va décider de construire à Paris un opéra en 1861. En 1861, c'est l'empereur Napoléon III qui lance un concours pour choisir le plus bel opéra du monde. Alors pourquoi 1861? Parce qu'on est en plein dans la période du baron Haussmann. Vous savez, oui. Qui fait ses grands travaux, qui est en train de vous métamorphoser Paris. Oui. Qui avait sérieusement besoin d'une belle métamorphose. Mais le projet de Napoléon III, le projet d'Haussmann, est de faire de Paris la plus belle ville du monde. Plus belle ville du monde, plus belle opéra du monde, tout simplement.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'auparavant, il y avait eu un attentat qui avait failli tuer Napoléon III, alors qu'il se rendait à l'opéra...
Le Pelletier.
Voilà, exactement, qui n'existe plus. Il y a peut-être un lien aussi.
Oui, il y a un lien qui est absolument évident. L'opéra Le Pelletier, il avait été construit en 1821. C'était un opéra provisoire. Oui. Alors, vous connaissez le principe du provisoire. Ça dure, ça s'accroche. C'est un opéra qui a été immortalisé par Edgar Degas, qui y peint toutes ses danseuses. Mm-hmm. Et dans cet opéra Le Pelletier, effectivement, en janvier 1858, il y a eu un attentat qui a été perpétré contre Napoléon III. L'objectif était d'assassiner Napoléon III.
Tout simplement.
Ça n'a pas réussi, vous le savez. Oui. Mais Napoléon III a quand même été traumatisé par cet attentat. Et il est absolument certain que l'attentat va précipiter un projet qu'avait déjà l'empereur, d'avoir un opéra pérenne. L'opéra 1821 n'était que provisoire, je vous le rappelle.
Lorsqu'on fait la visite avec Cultival, vous nous expliquez évidemment, j'imagine, le début de ce lieu. Est-ce que vous nous expliquez ce qu'il y avait à cet emplacement à Paris? Parce que là, vous nous parlez d'Haussmann, il y avait des grands travaux, mais c'était déjà en chantier l'emplacement où se trouve actuellement l'Opéra Garnier?
Non, alors ça c'est un point sur lequel on insiste. L'Opéra Garnier que vous allez venir visiter, je suis sûr, est le 13e opéra de Paris. Hein. Ouais. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que c'est le premier qui va se trouver dans ce lieu-là. Ce lieu est un lieu qui était occupé, alors il y avait des terrains vagues, il y avait quelques hôtels particuliers qui ont été rasés, mais c'est tout à fait inédit d'avoir un opéra sur cet emplacement-là, qui est vraiment à l'image de ce développement de Paris au moment de la Révolution industrielle. On est à deux pas de la gare Saint-Lazare, oui. On est tout près de la place Vendôme, on est à deux pas des grands magasins.
Qui étaient aussi tout récents, ou qui n'étaient pas encore finalisés.
Qui se construisent vraiment à cette époque d'Haussmann. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette période-là. Et c'est intéressant de comprendre qu'il y a un lien social de développement de l'urbanisme, et que si l'opéra de Charles Garnier arrive sur ce terrain-là, alors qu'il était un terrain qui était libre, ce n'est pas non plus complètement un hasard.
En quoi Garnier, qui fut choisi sur concours, il y a eu plein de gens qui se sont présentés à l'époque, a-t-il innové dans cette construction? Qui répond, comme vous voulez. Partagez-vous la parole. Je pense que
c'est
Ségolène.
Alors, Charles Garnier, c'est déjà un choix qui a été assez étonnant. C'est un choix qui est fait sur concours. Tous les projets étaient anonymes. Il est très jeune. Hein. Il a 35 ans quand il remporte le concours. Oui. Et il comprend. Alors, je crois qu'il comprend deux choses. Il comprend que le public viendra à l'opéra pour rêver. Ce qui marche très bien aujourd'hui. Hein. Vous venez à l'Opéra de Paris, c'est toujours un moment qui est absolument féerique. Charles Garnier va construire l'opéra comme étant le temple du dieu Apollon. Donc il y a quelque chose de très beau dans cette histoire, c'est le dieu de la beauté. On va rechercher effectivement cet Apollon. Mais il comprend aussi qu'il est face à la société du 19e siècle, société bourgeoise, qui réussit avec la révolution industrielle et qui a besoin de se donner en représentation. Et là, je vous invite à monter les marches de l'escalier de Garnier.
On va le faire dans un instant.
Vous comprendrez bien qu'on est vraiment sur une scène de théâtre et qu'on est là pour se donner en spectacle.
En termes d'architecture, je crois qu'il avait décidé d'une ossature, on peut dire ossature, je pense, un squelette en métal. C'était assez innovant, ça, à l'époque.
Ah, c'était une grande innovation, oui, de marier l'ossature métallique avec la pierre, absolument. Alors, il n'a pas toujours innové parce qu'il y avait la partie de l'éclairage qui elle, était restée assez traditionnelle avec le gaz.
Ah oui? Oui, bien sûr, à l'époque, il y avait encore le gaz.
Ça a été électrifié juste avant le début du le passage au XXe siècle, en fait.
D'accord.
Et au début, il y avait du gaz. Et anecdote aussi, le plafond de Marchagall, dont on revient
tout à l'heure. Oui, absolument.
Marchagall a complété le plafond original qui laissait en fait des trappes pour évacuer le gaz. Qui ne servait plus à l'époque. C'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'au bout du plafond.
Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses à apprendre. On va en parler, bien sûr, on va continuer. Dans un instant, la construction de l'opéra dure 15 ans. Ils seront interrompus, ces travaux, je crois, pendant la guerre franco-allemande. Et puis, finalement, c'est le président MacMahon qui inaugurera l'opéra Garnier. On va commencer la visite avec nos invités dans 3 minutes.
France Bleu Paris. France Bleu.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Of the heart.
Total eclipse of the heart.
Total Eclipse of the Heart, c'était Bonnie Tyler sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Il faut le voir en vrai, ce grand escalier, il faut se promener dans le grand vestibule, il faut admirer l'avenue de l'opéra, des baies vitrées, du grand foyer, il faut découvrir les loges somptueuses, le plafond de Chagall, il faut visiter l'opéra Garnier. Pour mieux comprendre le génie de son architecte, l'ambiance, l'humeur qu'on peut évidemment vivre aussi en allant voir un spectacle, tout ça c'est possible grâce à cultival.fr qui vous propose tout au long de l'année des visites guidées, on en parlera. Il y a trois versions, trois façons de visiter ce lieu. Alors, avec nos invités aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse à l'histoire du Palais Garnier, puis l'évolution de l'Opéra National à Paris, dans notre capitale. Cette visite, elle commence par un lieu qui s'appelle la Rotonde. La Rotonde des Abonnés, à quoi correspond ce lieu? Il sert à quoi aujourd'hui? Ou il servait à quoi aujourd'hui? Parce qu'éventuellement, ça a peut-être changé.
Alors la Rotonde des Abonnés, quand Charles Garnier l'a construite, c'était un lieu qui était extrêmement important parce que c'était le vestiaire par lequel arrivaient les abonnés de l'Opéra de Paris. Alors, il faut savoir que l'abonné autrefois n'avait pas du tout le statut d'un abonné aujourd'hui, à savoir que c'était une personne qui avait une loge qui était privatisée. On avait sa loge à l'Opéra, c'était un signe évidemment.
Toutes ces loges qu'on voit, puisque c'est un théâtre italien tout autour.
Et ça pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'important et nécessairement la direction de l'Opéra tenait à accorder à ses abonnés un certain nombre d'avantages, de privilèges. Et le premier privilège qu'ils avaient, c'était de rentrer par cette rotonde.
Très bien.
Qui est un espace qui porte très bien son nom. Hein. C'est une rotonde dans laquelle vous avez des grands miroirs. Et ça, c'est un détail qui n'est pas négligeable, puisque comme les gens venaient à l'opéra pour se montrer, avant de se montrer, il peut être bon de se regarder. Et ils étaient toujours ici avec leurs domestiques. Donc ils avaient effectivement ces grands miroirs devant lesquels ils pouvaient effectivement se préparer. Et ce qui est assez intéressant quand vous rentrez par ici dans l'opéra, c'est que vous comprenez complètement l'œuvre de Charles Garnier, qui estimait que l'opéra était un lieu qui était tellement merveilleux qu'on ne pouvait pas rentrer encore pris par son quotidien, pris par ce qu'il appelait lui le vulgaire. Le vulgaire, c'est vraiment le train-train quotidien. Ouais. Et il faut, pour rentrer dans l'opéra, que l'âme s'élève progressivement. Alors l'expression de Charles Garnier, c'est que vous faisiez un chemin initiatique.
Oh là là là.
Et vous le verrez, c'est très très beau. En fait, quand on rentre par cette rotonde, on rentre par un décor qui est encore relativement sobre. Et plus on avance dans l'opéra, plus le décor s'enrichit et plus on a le sentiment, effectivement, de rentrer dans ce monde des dieux. Et donc, vous êtes élevé de l'ombre à la lumière. Et maintenant, vous êtes prêt.
Benjamin Bétou, vous qui connaissez les clients d'aujourd'hui, j'allais dire les visiteurs, mais aussi les personnes. Est-ce qu'il y a d'abord encore un abonnement particulier qui donne des privilèges? Et est-ce qu'on vient encore élégamment vêtu pour aller à l'opéra?
Alors oui, on vient toujours élégamment vêtu, surtout à Garnier en fait. On a beaucoup de nos spectateurs qui sont des étrangers. On a les Japonais qui... Traditionnellement, les femmes sont en kimono, donc ça fait toujours partie du décorum hein, quand ils assistent à une représentation, ballet ou opéra, plutôt ballet d'ailleurs, pour ce qui les concerne. Et on a effectivement un public qui est toujours plutôt habillé, surtout à Garnier encore une fois, même si la politique qu'on essaye de mener depuis quelques années tente à donner des faveurs aux jeunes, et notamment des avant-premières jeunes. On en a une douzaine par an, qui sont réservés aux moins de 28 ans à 10 euros, quelle que soit la place.
Ah voilà. Oui.
Ce qui fait qu'il y a à peu près 26 000 jeunes, entre 26 et 30 000 jeunes, qui assistent à ces représentations. Et on se rend compte que c'est pas uniquement un effet d'aubaine. On a entre 40 et 45% de gens qui ne sont jamais venus à l'opéra, qui accompagnent un ami, une amie, et qui assistent aux premières représentations et qui découvrent Garnier, Bastille, le ballet et l'opéra.
Puisqu'on est à Garnier aujourd'hui, puisqu'on visite cet endroit, combien de spectateurs peuvent assister au ballet, à l'opéra Garnier?
Sur Garnier, on a à peu près 300 000 spectateurs.
Non, par représentation.
Ah, on est à un peu plus de 2 000.
D'accord, et à Bastille.
Un peu plus de 2000 à Garnier, en sachant qu'on a ce qu'on appelle des places sans visibilité.
Oui, derrière des poteaux. Et puis tout en haut.
Qui sont effectivement, on entend très bien la musique, mais on ne voit pas forcément les
pour
le
un
spectacle.
Ballet, c'est peut-être pas terrible.
Voilà. Et à Bastille. Et à Bastille, on est à 2750.
Alors, on va parler. Les abonnés à l'époque, ils avaient des privilèges. Aujourd'hui, dans tout ça, c'est fini.
Ils ont pas de privilèges particuliers. Ils ont effectivement parfois un nombre de spectacles avec des avantages qui sont associés.
Classique.
Mais on n'a pas les mêmes avantages que il pouvait y avoir à l'époque.
On passe par le grand escalier qui est effectivement absolument majestueux. On arrive au grand foyer. Encore une étape destinée à quoi ce grand foyer? C'est ce grand salon qui donne justement sur l'avenue de l'Opéra, là, les grandes baies vitrées qui donnent sur l'avenue de l'Opéra.
Voilà, le grand foyer, effectivement, c'est cette grande galerie qui ressemble étrangement à la Galerie des Glaces.
Oui.
Ça, c'est très caractéristique du style de l'époque Napoléon III. On s'inspirait de ce qui avait été fait par les générations précédentes, notamment ce qui avait été fait de plus beau. Et comme on était dans une architecture qui s'intéressait à l'art de la fête, on va beaucoup copier le grand siècle, donc le siècle de Louis XIV, et on a fait ce grand foyer. Alors le foyer, comme son nom l'indique très bien, c'est le lieu dans lequel on venait pendant l'entracte pour se réchauffer auprès du foyer de la cheminée.
Ah,
donc à l'origine, d'accord. Un foyer, c'est ça.
Ouais.
Et finalement, le foyer, c'est devenu, au sens plus large, le lieu dans lequel on va venir passer ce temps de l'entracte entre deux actes. On vient dans le foyer.
D'accord. Est-ce qu'à l'époque, je crois qu'à l'époque, on venait, alors les spectacles duraient assez longtemps, on venait pour se montrer, vous le disiez tout à l'heure, être élégant, mais on venait aussi pour se rencontrer, pour le business, j'allais dire, notamment les hommes venaient faire des affaires à l'opéra. Ils n'étaient pas que assis pendant leur loge pour regarder les spectacles.
Non, alors ça c'est quelque chose qu'on a un peu de peine à imaginer aujourd'hui, mm-hmm. mais pendant très très longtemps, effectivement, c'était un lieu mondain. Derrière les mondanités, il y avait bien évidemment la volonté effectivement de faire ses affaires. C'était un lieu de rencontre, tout le gratin de la société était là. Le grand foyer, typiquement, c'était un lieu idéal pour présenter sa fille. Quand on a la chance d'avoir une belle jeune fille de 17 ans, il faut la marier.
Ouais.
Pas n'importe comment. Donc évidemment, on va faire parler de la dot, on va montrer la jeune fille. Tout ça peut très bien se négocier dans une loge pendant un spectacle.
Les femmes, pardon.
Non, pardon. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de noir dans la salle, puisque les salles étaient éclairées. Alors auparavant, c'était la bougie, puis ensuite le gaz.
Ouais.
Donc le gaz ne s'éteignait pas. Il y avait toujours une flamèche qui était là. Et donc on se voyait tout le temps. On se jaugeait, on s'estimait, on
se séduisait. Les hommes plutôt n'avaient-ils pas plus de privilèges que les femmes à l'époque dans cet opéra Garnier, Ségolène ou Thibault?
Alors, en fait, il y a eu, lors de l'inauguration du 5 janvier, il y a eu une première et qui a permis, effectivement, après aux femmes d'être plus à l'aise dans le lieu, c'est que la reine d'Espagne, qui assistait à l'inauguration, a voulu voir le bâtiment, et elle s'est promenée dans le grand foyer, ce qui normalement n'était pas autorisé. C'est-à-dire que les femmes n'allaient pas dans le grand foyer et restaient dans leur loge. Et là, elle a voulu découvrir ce lieu dont on parlait depuis de nombreuses années. Et effectivement, ça a créé un précédent. Et donc après, il y avait la possibilité, même si c'était toujours un peu compliqué et pas toujours simple, de pouvoir déambuler. Et c'était l'idée, d'être vu et de voir toujours. C'est pour ça que quand on est dans le grand escalier, on a des loges et des balcons qui donnent et qui dominent ce grand escalier pour pouvoir toujours regarder ceux qui montent.
Donc les femmes, elles restaient dans les loges. Un petit peu, d'accord. C'était pas évident. Moi, je me suis toujours demandé, c'était peut-être les femmes qui restaient dans les loges, mais quand elles avaient une petite envie ou une grosse envie, ça devait pas être évident. Mais c'est vrai, faut en parler. Elles avaient pas le droit d'y aller.
Non, théoriquement, effectivement, les femmes étaient tenues de rester dans leur loge avec peut-être la possibilité de s'échapper un peu.
Ah oui.
Mais le grand foyer était un peu comme les fumoirs jusqu'à l'inauguration, un lieu exclusivement réservé aux hommes. Et effectivement, cette audace de la reine d'Espagne, qui était venue voir les décors peints. En réalité, elle voulait voir les décors de Paul Baudry, qui avait été exposé à l'École des Beaux-Arts. Donc la réputation des toiles était connue, elle a voulu voir ce chef-d'œuvre et c'est pour ça qu'elle est venue. Mais ça a été une révolution effectivement sociale absolument incroyable. Jamais on n'aurait imaginé une femme dans ce grand foyer.
Ben voilà, on va poursuivre la visite passionnante. Dans un instant, on passera par la rotonde du glacier et puis on parlera bien sûr des artistes, des danseuses, des danseurs, des petits rats de l'opéra si célèbre. On ira dans le fameux foyer que l'on retrouve dans de nombreux tableaux d'Edgar Degas. Qui a beaucoup peint l'opéra Garnier, n'est-ce pas? Vous me le confirmez tous les trois, hein? Non? Oui. Non, pas tellement? Pas tant que ça? Il a peint les danseuses seulement?
Non, en fait, Edgar Degas a surtout peint l'opéra Le Pelletier.
Ah, c'est
à la fin de sa vie, l'opéra Garnier existait, mais Degas était aveugle. Donc Degas peignait de mémoire. Et si vous faites attention aux œuvres de Degas, elles ne sont pas dans l'opéra Garnier. Néanmoins, ce qu'il peint dans la représentation des danseuses est extrêmement intéressant.
Oui.
Et je vous renvoie également à son chef-d'œuvre, qui est sa petite statuette de la danseuse de 14 ans.
Oui.
Il révèle un peu le statut qui a été celui des danseurs pendant très longtemps, qui était de souffrir, je crois qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, d'un dédain absolu de l'ensemble de la société.
On va en parler dans un instant, puisque Muriel Giordan, qu'on a l'habitude de retrouver ici tous les jours, est allée visiter ce lieu dans Accès Privé. On retrouve donc Muriel Giordan dans les coulisses de l'Opéra Garnier, dans ce fameux foyer, juste après ça.
France Bleu Paris.
Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. Sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine.
Claudio Capéo, ta main sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. Journée spéciale sur France Bleu. Demain, le réseau France Bleu et ses 44 antennes locales se mobilisent pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en matière de mobilité.
Déplacement, transport, services publics. Où sont les points noirs de la mobilité en France? En présence d'auditeurs, invités dans les rédactions, France Bleu dresse la carte de vos galères de transport.
De la matinale jusqu'à francebleu.fr. La mobilité en question, journée spéciale. Demain, France Bleu met du concret dans le débat.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Midi 32, c'est l'heure d'accès privé. Muriel Giordan, notre reporter qui se faufile partout, poursuit la visite de l'Opéra Garnier. Elle est dans le foyer de la danse, un lieu exceptionnel, le décor opulent, situé à l'arrière de la scène de l'Opéra Garnier. Puis elle ira carrément sur la scène de l'Opéra. Écoutez plutôt.
Vous l'avez dit, alors dans certains spectacles, là où nous nous trouvons, ce studio normalement dédié aux répétitions, fait partie de la mise en scène. Il suffit donc de lever ce rideau. C'est pas un rideau, mais c'est carrément un rideau de fer, ça, là, juste en face de nous.
Oui, on appelle ça le rideau de fer du lointain. Donc en fait, on lève le rideau de fer du lointain, le rideau de fer d'avant-scène, et on a une profondeur incroyable jusqu'au foyer de la danse. Et on s'en sert notamment dans la mise en scène de Capriccio, ça rentre de Robert Carsen, ça rentre dans la mise en scène. C'est absolument magnifique, c'est une idée géniale.
Ça veut dire que derrière nous, si on lève ce mur-là plus un autre, on voit les premiers strapontins, mais très très loin.
Vous avez une vision de la salle complètement jusqu'aux premières loges. C'est-à-dire que vous voyez toute la salle depuis le foyer de la danse. Donc chaque année, pour l'ouverture de la saison chorégraphique ou pour des événements particuliers, on organise ce qu'on appelle le défilé du corps de ballet. C'est-à-dire que ça commence par l'école de danse, donc le plus petit rat, le plus jeune rat, commence et part du fond du foyer de la danse.
Pour aller, là où nous sommes donc.
Là où nous sommes, pour aller jusqu'à l'avant-scène, tout seul. Et donc voilà, les parents en salle sont en larmes lorsqu'ils voient défiler leur enfant en petit tutu, partir tout seul comme ça sur la scène. Et après, sont suivis l'école de danse, tout le corps de ballet, et ça se termine par la danseuse étoile, la plus âgée, hein, qui partira à la retraite cette année.
Là, il y a un ascenseur. Là, nous sommes vraiment derrière la scène. Si vous ouvrez cette porte, ici, il est marqué « Silence, entrée de scène ». Là, on atterrit où ?
Vous arrivez au lointain jardin. Le lointain jardin, vous êtes sur scène. Voilà, vous y êtes. Côté jardin, regardez au-dessus de vous.
Ça donne le tournis, c'est tellement c'est grand.
Voilà, vous êtes sur le plateau, côté jardin. Le plateau est composé de 83 porteuses qui ponctuent le plateau, qui vont de cour à jardin, sur lesquels on accroche les décors et les toiles, qui constituent en fait les éléments de fond des spectacles.
Là où nous marchons, c'est là où sont les danseurs pendant un spectacle ?
Là où nous marchons, c'est là où les danseurs, nous sommes en coulisses côté jardin, et donc les danseurs et les artistes lyriques attendent là leur entrée en scène, effectivement. Donc bien sûr, vous ne voyez rien depuis la salle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coulisses, c'est « pousse-toi, marche pas sur mon tutu, attention, regarde, tu vas me froisser ». Donc ici, c'est vraiment la cohue. Il y a énormément de monde et le régisseur est là en coulisses pour faire le silence. Autant dire qu'il a un peu de travail quand même. Alors, Muriel, est-ce que vous voulez rentrer sur scène ? C'est à vous.
Ah, mais c'est à moi. Voilà, donc je suis sur la scène de l'Opéra Garnier. C'est impressionnant de voir cette salle vide, ce lustre, ce plafond de Marc Chagall.
C'est l'une des plus grosses salles parisiennes, hein. 2115 places, ce qui pour un théâtre à l'italienne est énorme, hein, sachant que c'est le deuxième plus grand théâtre à l'italienne au monde, puisque le plus grand est le Théâtre Colonne à Buenos Aires. Et autant vous dire que les mesures de sécurité chaque soir sont draconiennes.
Merci Muriel, merci également à Gilles Djerawan qui connaît le Palais Garnier comme sa poche, qui a pu emmener notre reporter dans ces lieux inédits. Je vous rappelle qu'il est possible de visiter une partie des coulisses de l'Opéra de Paris en réservant sur, également, on peut réserver sur opéra-de-paris.fr et cultival.fr bien sûr. On en parle aujourd'hui si vous nous rejoignez, il est midi 36.
France Bleu Paris, découverte.
C'est France Bleu Paris, découverte. Et c'est en mode visite guidée de l'Opéra Garnier. Nous sommes avec Ségolène de la Houppelière, guide à l'Opéra Garnier, Benjamin Bétou, directeur adjoint de l'expérience spectateur et marketing de l'Opéra National, et Thibaut Manchon, directeur de cultival.fr. J'ai tout dit.
C'est parfait.
Bon, elle était sur scène, là, Muriel Giordan. C'est un privilège d'être sur scène. Une scène qui, d'ailleurs, est légèrement en pente. Hein. Ça se remarque tout de suite quand on visite l'Opéra Garnier, Benjamin Bétou.
C'est une pente de 5% qui est assez importante. Quand on est dessus, en plus, on s'en rend compte.
Oui, oui, tout à fait.
Et pour les artistes, notamment les danseurs, c'est extrêmement dur de danser dessus, même si, en fait, depuis tout petit, ils travaillent. Et les salles de répétition du Palais Garnier sont aussi, la plupart, avec une pente à 5%.
C'est-à-dire que dans d'autres opéras, ça n'existe pas, cette
Ça n'existe plus, en fait. La pente à 5% a été supprimée progressivement et elle est là notamment pour donner une perspective pour les spectateurs et donc permettre aux personnes qui sont sur scène au lointain, donc plus loin de la scène, d'être plus haut. Voilà. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité.
Je me posais la question, les spectacles, on le disait au début de l'opéra, pendant assez longtemps, durait des heures, durait très longtemps, on pouvait se balader, mais quelles étaient les places les plus recherchées ? Parce que on parlait des loges tout à l'heure pour les abonnés, donc des loges assez luxueuses quand même, mais alors il y a tous ces sièges en bas dans l'orchestre qui sont numérotés, qui sont magnifiques, recouverts de velours rouge, c'est extraordinaire. Je me disais, ce sont les meilleures places parce que là on est face à la scène. c'est pas les loges, mais où on doit se tordre un peu le cou.
Alors ça dépend des époques en fait.
Ben voilà, qu'en était-il et qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors pendant très longtemps, les sièges d'orchestre ont été réservés aux hommes. On parlait tout à l'heure des privilèges des hommes, oui. Les femmes n'avaient pas le droit de venir.
Ben, elles pouvaient pas avec leurs grosses robes.
Non, c'était essentiellement une histoire de chapeau. Une femme ne peut pas décemment sortir dans un lieu public sans chapeau, donc suivant les modes, évidemment, c'est plus ou moins encombrant. Donc on avait jugé que ces places seraient réservées aux hommes célibataires. On parlait d'Edgar Degas, typiquement, il est célibataire, il prend un abonnement, il a un siège réservé à l'orchestre. Si vous êtes marié, il faut s'agrandir un petit peu, vous allez louer une loge. Et les loges les plus recherchées, c'était ce qu'on appelait les loges entre colonnes et les baignoires, qui sont les loges de côté, qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement des bonnes places, effectivement. Mais ce sont des places depuis lesquelles vous voyez très bien toute la salle et depuis laquelle toute la salle vous voit. Donc c'est quand même assez révélateur de toujours cette recherche que l'on avait à l'époque.
Et aujourd'hui, ça a changé.
Alors aujourd'hui, ça a changé. On est plutôt en orchestre ou en balcon et en première loge de face. À Garnier, on a aussi ce qu'on appelle une loge de l'empereur et une loge de l'impératrice qui étaient séparées, qui se font face et qui sont juste au-dessus de la fosse d'orchestre, qui était effectivement l'emplacement normalement que l'empereur et l'impératrice auraient dû avoir s'ils avaient pu connaître ce lieu.
Car ils ne l'ont pas connu. Parce que même si ça a été initié par Napoléon III, ils n'ont pas assisté à l'inauguration.
Mais oui, puisque l'opéra a été terminé en 1875, et que vous le savez, en 1870, ça a été la défaite de Napoléon III contre la Prusse, la défaite de Sedan le 2 septembre, et le 4 septembre 1870, la Troisième République. Donc c'est la Troisième République qui inaugure l'opéra.
On s'est intéressé à la construction, à l'inauguration, on est passé par le grand escalier, le grand foyer, nous voici dans la rotonde des glaciers. Qu'est-ce que la rotonde des glaciers? Pourquoi ça s'appelle la rotonde des glaciers? Vous le savez?
Alors la rotonde des glaciers, c'est un lieu qui servait autrefois de restaurant, dans laquelle vous avez des magnifiques tapisseries de la manufacture des Gobelins, qui représentent tous les mets que l'on allait pouvoir trouver. Ça va du poisson au faisan, pour terminer par les pâtisseries. Et vous avez notamment une très très belle tapisserie sur laquelle vous avez représenté du sorbet et du champagne, qui l'un comme l'autre était servi glacé. D'où le nom de rotonde du glacier, qui est le lieu dans lequel on venait se rafraîchir.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup de lieux à l'identique de l'époque de Garnier, dans l'opéra Garnier ?
Oh, quasiment tous, en fait. La salle a été, le plateau notamment, a été modernisé, informatisé, électrifié, mais le reste du bâtiment est restauré, nettoyé. On a encore terminé la restauration et le nettoyage de l'avant-foyer avec ces mosaïques absolument magnifiques qui retrouvent tout leur éclat l'été dernier, mais c'est quelque chose qui est en l'état assez proche de ce qu'avait connu Garnier.
Pour terminer notre visite, parce que malheureusement c'est beaucoup plus long évidemment et beaucoup plus riche quand on y va vraiment, ce que je vous conseille bien sûr, pour terminer notre visite de l'Opéra Garnier, je vous propose d'aller dans un lieu très particulier qui raconte l'histoire des artistes. On y était tout à l'heure, mais on va parler de à quoi servait ce fameux foyer où les danseuses et les danseurs venaient sans doute s'échauffer. On le saura dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
France Bleu. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. Holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore.
Gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. cliché. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before.
I overthought, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Charlie Puth et Selena Gomez, We Don't Talk Anymore sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
On l'a appelé l'Opéra de Paris jusqu'en 1989, date à laquelle Paris se dote d'un deuxième opéra, l'Opéra Bastille. Désormais, on dit l'Opéra Garnier ou le Palais Garnier qui porte bien son nom. Ce lieu magnifique, on peut le visiter grâce à cultival.fr. On en parlera dans quelques instants et puis grâce notamment à notre invité aujourd'hui, c'est Ségolène de La Houppelière, qui fait visiter l'Opéra Garnier. Et pour en savoir plus sur ce qui s'y passe aujourd'hui, nous sommes également avec Benjamin Bétou, directeur adjoint de l'expérience. Bon, enfin, voilà, vous avez raison. Bon, alors terminons avec ce lieu dont on parlait tout à l'heure, le fameux foyer. Alors, il faut expliquer ce foyer, on ne peut pas le visiter aujourd'hui parce que d'abord, je crois qu'il est encore utilisé par les danseuses pour s'entraîner, s'échauffer. C'est un lieu mythique de l'Opéra Garnier qui se trouve derrière la salle. Un lieu très riche, orné de dorures, mais aussi de tableaux et de certains portraits de danseuses célèbres. Vous me le confirmez, Ségolène de Leclière.
Tout à fait.
Et ce lieu était incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, les abonnés avaient le droit d'y venir quand ils voulaient. Alors évidemment, ce n'était que les hommes. Voir les danseuses, les petits rats s'entraîner, accompagnés de leur maman qui souvent n'était pas loin. C'est vrai, c'est ça l'histoire ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Le foyer de la danse, il est exactement dans le prolongement de la scène. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas y aller. C'est pour des raisons de sécurité, ce ne serait pas évident de circuler sur le plateau. Et puis c'est un lieu qui appartient vraiment aux danseurs, dans lequel ils viennent s'échauffer, hein, tout simplement, répéter avant de rentrer en scène. C'est une partie extrêmement importante de leur travail, donc il faut leur conserver ce lieu-là. Mais effectivement, autrefois, les abonnés, ces messieurs, vous le dites très bien, avaient le privilège de venir dans le foyer de la danse, rencontrer les danseuses, parfois
oui,
choisir
voilà.
Parmi ces danseuses
voilà.
La jeune fille qui
avec l'accord de la maman qui n'était pas loin.
Voilà, exactement.
Mais ça raconte la condition de la danseuse il n'y a pas si longtemps que ça, fin 19e, même au 20e siècle. Ces danseuses-là, elles n'étaient pas considérées si bien que ça, finalement.
Non, c'est quelque chose qui est assez épouvantable, qui nous a été très bien raconté dans un ballet d'Elisabeth Platel, qui est la petite danseuse, dans lequel elle raconte typiquement l'histoire d'une jeune fille parisienne, pauvre, qui est poussée par sa mère à devenir danseuse, donc qui intègre ce corps de ballet, et qui, en réalité, va subir... Alors là, bien évidemment, nous sommes dans le passé.
Oui, hein, bien sûr.
Lourdement
bah, oui,
là-dessus.
Ouais,
ouais. Va pousser sa fille à rentrer dans ce corps de ballet, et là, très rapidement, va se mettre en place cette situation de très grande pauvreté, en contraste avec la réalité de l'opéra et ses abonnés qui vont entretenir cette danseuse. Il y a une expression qui est restée, on parle toujours des petits rats de l'opéra,
oui.
Pour lequel tout le monde a beaucoup d'admiration, et c'est oui. Une admiration qui est légitime. L'expression de rat,
c'est moche. Hein.
C'est d'abord très laid, parce qu'un rat est un animal qui est très laid.
Et
au 19e siècle, les rats étaient des prostituées. Donc tout est dit.
Tout est dit. Et le statut des danseurs, alors, est encore moins. Il y a très peu de danseurs très célèbres, même à l'époque de Garnier. C'est finalement, ce sont les danseuses qui sont célèbres. D'ailleurs, les portraits que l'on voit dans le foyer, ce sont des danseuses célèbres. Il n'y a pas de danseurs.
Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, effectivement, les danseuses étaient plus admirées peut-être que les danseurs. Je crois, vous le confirmerez certainement, Benjamin, que l'on doit beaucoup à Rudolf Nureyev, qui a revalorisé les rôles masculins.
Peut-être Nijinsky auparavant ?
Oui, Nijinsky avec les ballets russes au début du 20e, qui n'ont pas été créés d'ailleurs à l'Opéra, mais au Châtelet. Et effectivement, ça donnait la place entière aux danseurs masculins. Il faut savoir maintenant que le corps de ballet de l'Opéra, qui est composé de 154 danseurs, c'est moitié homme, moitié femme. Mm-hmm. Et à l'école de danse de Nanterre, qui fait partie donc de l'Opéra National de Paris, depuis un peu plus de 30 ans maintenant, ils sont installés à Nanterre. C'est là aussi, il y a beaucoup d'élèves enfants masculins et féminins, mais les deux, ils sont.
C'est intéressant de visiter l'Opéra Garnier parce qu'effectivement, on apprend un peu aussi l'histoire de ces fameuses petits rats de l'Opéra et des danseurs et des danseuses qui, évidemment, en termes de statut, a beaucoup, beaucoup évolué. Voilà. Pour conclure, je dirais que grâce au site cultival.fr, on peut visiter l'Opéra de trois façons différentes. Le Palais Garnier, un chef-d'œuvre architectural. Je crois que c'est une visite régulière aux alentours de Thibault Manchon, confirmez-moi.
C'est tous les jours, mm-hmm. tous les jours d'ouverture, pour les particuliers, pour les groupes. C'est ouvert depuis l'ouverture de l'Opéra à 10h du matin jusqu'à sa fermeture.
Il faut s'inscrire sur le site, bien évidemment. Le Palais Garnier, un chef-d'œuvre architectural. Les mystères du Palais Garnier, c'est aussi une possibilité supplémentaire de visiter.
Tout à fait, certains jours, en fin de journée, à partir de 17h, quand le Palais Garnier se vide, donc c'est une visite qui est un petit peu exclusive, qui est assez particulière, dans les espaces publics du Palais Garnier, où vous suivez un conférencier, comme là vous avez eu le plaisir d'entendre Ségolène, vous emportez littéralement dans l'opéra, mais vous y êtes seul, donc c'est très agréable.
Parlons de la visite anniversaire, à quoi correspondent les 350 ans de l'Opéra de Paris?
Les 350 ans, c'est en fait, en 1669, Louis XIV confie à M. Perrin l'autorisation exclusive de créer une académie royale de musique.
D'accord.
Qui est en fait la première structure permanente de musique en France et d'opéra notamment. Et donc, on fête cette année les 350 ans de cette Académie royale de musique. Et les 30 ans de Bastille, du coup, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mmh. C'est un double anniversaire pour nous, avec donc des expositions, on en parlait rapidement, des débats au Collège de France et un certain nombre d'animations autour, dont une double installation de Claude Lévesque, le plasticien, à la fois à Garnier et à Bastille.
L'Opéra Bastille qui va continuer à évoluer puisque vous annoncez des travaux et une nouvelle salle.
Oui, en fait, l'Opéra Bastille n'a jamais été jusqu'au bout de sa construction et de la volonté de Carlos Sotte, l'architecte à l'époque. D'ailleurs, petite anecdote, Carlos Sotte, qui avait 35 ans comme Charles Garnier à l'époque, et qui a le même prénom, en fait, Charles et Carlos. Ce bâtiment va voir la fin de sa création en 2023. L'agence d'architectes a été retenue, c'est une agence danoise, Erik Larsen, qui va donc créer cette salle de 800 places à peu près, qui va permettre d'accueillir ce qu'on appelle des petites formes, donc des spectacles plus simples qui sont à faire, des répétitions et aussi sans doute des locations d'espace.
En ce moment, à Bastille, le Lac des Cygnes et à Garnier, un ballet par trois chorégraphes différents, je crois.
Oui, c'est trois chorégraphes différents qui interviennent. Un qui s'appelle Cherkaoui, Gokke et Lidberg. Ils sont trois pièces différentes qui se passent à Garnier.
Vous savez tout? Non, bien évidemment, vous ne savez pas tout. Bien, pour cette visite, il faut aller tout simplement s'inscrire sur cultival.fr. Et puis pour tout vous dire, on vous offrira peut-être bien des places demain dans le Grand Paris dès 11h. Merci encore à tous les trois. Merci Ségolène de la Houppière. Merci Benjamin Bétou. Merci Thibault Manchon d'être passé par ici aujourd'hui. À bientôt.
Merci Laurent.
Merci.
France Bleu. On se dit tout sur France Bleu. Quand on parle de vous, pas de tabou.
On les appelle Nounou, Tata. Elles, ce sont les assistantes maternelles. Indispensables, attachantes, souples, innovantes dans leur méthode. Elles sont aussi très précaires, avec parfois de très petits salaires. Et si on en parlait?
Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu, dès 14h. France Bleu, en direct du Salon International de l'Agriculture à Paris. Jusqu'au 4 mars, France Bleu s'installe au cœur de la plus grande ferme de France. Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux, des artisans et de leurs produits, et de tous ceux qui contribuent à l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. France Bleu, partenaire du Salon International de l'Agriculture. Les informations pratiques, le programme des émissions sur francebleu.fr.
Avec CTH, compléments nutritionnels, traitement de l'eau et hygiène en élevage. Plus d'infos sur cth.fr.
France Bleu Paris.
France Bleu.
France Bleu Paris.
France Bleu.